Radio Kapi.
Le journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, la MONUSCO reste disponible pour un appui logistique à la CENI dans les trois provinces où elle est encore déployée conformément à son mandat. C'est ce qu'a indiqué Urgedi, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport sur le Congo présenté au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Le Premier ministre a présenté officiellement hier jeudi à Kinshasa son regroupement politique dénommé Agissons et Bâtissons AB, une plateforme politique qui réunit plusieurs partis, dont ceux des membres du gouvernement Samalou Kondé, avec comme mission de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat. L'invité de ce journal est le directeur de communication de la communication de la CENI. Jean-Baptiste Itipo parle de la problématique de la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs en réaction au sondage en rapport avec cette opération menée par l'Observatoire de la gouvernance. Mesdames, Messieurs, bonjour. La MONUSCO reste disponible pour un appui logistique à la CENI dans les trois provinces où elle est encore déployée conformément à son mandat. Elle encourage tous les partis politiques à lutter sans concession contre les discours de haine et de discrimination en leur sein. C'est ce qu'a indiqué la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, l'a fait savoir hier jeudi dans son rapport sur la RDC présenté au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Des élections de qualité sont essentielles pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer les fondations d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je note les efforts déployés par les autorités congolaises et la CENI pour tenir son calendrier dans les délais constitutionnels. Le rejet de toute proposition des forces politiques d'opposition et de la société civile pour résorber la crise de confiance est cependant inquiétante. Dans ce contexte, il est également important pour le gouvernement de s'assurer que l'espace démocratique soit protégé, que la liberté d'expression et la liberté de la presse soient garanties et que les droits de l'homme soient respectés. Je constate l'amélioration significative de la liberté de circulation des leaders d'opposition dans tout le pays depuis 2 mois et l'engagement des autorités à assurer leur sécurité. Cette posture doit être maintenue sur toute la durée du processus. Je déplore et condamne les diverses attaques et intimidations qui nuisent à la participation des femmes au scrutin. Dans ce contexte, je salue le courage des femmes candidates, mais regrette que leur candidature ne soit en augmentation que de 6% par rapport aux législatives de 2018, soit un total de 17% des candidatures cette année contre 11% en 2018. Les autorités congolaises, la CENI, la MONUSCO et les agences de l'ONU, soutenues par différents partenaires, ont contribué à sensibiliser et encourager ces candidatures féminines. La MONUSCO, de concert avec les agences fonds et programmes de l'ONU, comme le PNUD et l'UNESCO, soutient activement la police nationale congolaise pour la sécurisation des élections via des formations pour la prévention de la violence électorale, la gestion des foules et le respect des droits de l'homme.
Au cours de la même séance du Conseil de sécurité consacré à la RDC, la France a appelé à une collaboration étroite entre les autorités de la RDC et la MONUSCO pour un retrait responsable de la mission onusienne, tout en assurant son accompagnement dans ce processus. L'ambassadeur Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, l'a dit hier jeudi à New York. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Grace Hamzati.
Nous devons collectivement répondre aux attentes des Congolais sur le retrait de la MONUSCO et nous montrer à la hauteur de cet enjeu. La France salue les orientations contenues dans le rapport sur les options de retrait de la MONUSCO remis début août par le secrétaire général. Elles vont dans le bon sens en dessinant les contours d'un retrait progressif et responsable, tenant compte de la réalité de la situation sur le terrain et de l'intérêt des populations civiles. La France salue l'expression par les autorités congolaises en des termes clairs de leur souhait de voir ce retrait engagé sans tarder. Nous souhaitons que le Conseil de sécurité prenne pleinement en compte les demandes concrètes et réalistes des autorités congolaises. congolaise. Le retrait ordonné que nous appelons de nos voeux devra être le fruit d'une collaboration étroite entre les autorités congolaises et la MONUSCO sous les auspices du Conseil de sécurité. Les autorités congolaises ont un rôle central à jouer dans ce processus, au terme duquel elles prendront totalement à leur charge la sécurité de l'ensemble du peuple congolais. La France est dès maintenant prête à accompagner la République démocratique du Congo et la MONUSCO dans cet effort. Elle continue à apporter son soutien à la mission qui doit bénéficier jusqu'à son retrait des capacités nécessaires à l'exécution de son mandat. C'est pourquoi la France va proposer aux membres de ce Conseil l'adoption d'une déclaration de la présidence afin de préparer les prochaines échéances. Nous espérons que ce texte pourra être adopté rapidement.
Et dans ce même cadre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a quant à lui déploré le fait que le Rwanda continue de renforcer ses troupes au Nord Kivu. Devant le Conseil de sécurité, Christophe Lutundula a affirmé que le processus de règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC est bloqué par le Rwanda et les M23. Par ailleurs, le chef de la diplomatie congolaise a réitéré la demande du gouvernement d'un retrait accéléré de la MONUSCO à partir de décembre 2023, ce qui n'est pas à confondre avec un retrait précipité, a-t-il insisté. Christophe Lutundula, dans ses propos sélectionnés par Grace Amzati.
Je vous informe, il n'y a pas deux heures, mon collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, venait de m'informer, même maintenant je viens d'avoir ce message. Hier, dans la matinée, un hélicoptère de l'armée rwandaise a atterri à Rumangabo. Rumangabo, c'est au Congo. Les M23 refusent le pré-cantonnement au camp de Rumangabo, le désarmement et le cantonnement dans les sites aménagés dans la province de Maniema avant son retour au processus de Nairobi et à l'intégration de ses membres au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Pour tout dire, le processus de règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs est aujourd'hui dans l'impasse et totalement bloqué par le Rwanda et les M23. Je crois que Mme Bintou vous a informé de la mésaventure de l'EAC, de FRDC, de la MONUSCO qui voulait aller à Rumangabo et à Bunangana voir la possibilité de faire le précantonnement des M23 comme convenu. Ce que d'aucuns considèrent à tort comme une accalmie, comme un cessez-le-feu, n'est en réalité qu'un simulacre de cessation des hostilités de la part du M23 et de son géniteur, le Rwanda. Mieux, un enlisement qui leur permet de consolider l'occupation de la province congolaise du Nord Kivu par l'armée rwandaise et la tentative de partition de notre pays. C'est pourquoi, afin d'éviter de tourner en rond, alors que la gravité de la situation exige célérité et efficacité dans l'action, notre gouvernement a opté pour l'accélération du retrait de la MONUSCO en ramenant le démarrage de ce retrait progressif, je dis bien progressif, ordonné, responsable et durable de la fin de l'année 2024 à celle de l'année 2023 en cours. Je voudrais insister, mesdames et messieurs les membres du Conseil, qu'on ne doit pas confondre accélération avec précipitation. Non.
Au Nord Kivu, pendant ce temps, la force régionale de l'EAC s'est interposée mercredi dernier entre les FARDC et les rebelles du M23 autour de la colline de Kanyamahoro dans le territoire de Nyiragongo. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu qui révèle cette information affirme que l'armée voulait recourir à la force pour empêcher les rebelles à réoccuper le sommet de cette colline. Dans un communiqué officiel, le porte-parole dénonce la réoccupation par les M23 de plusieurs positions qu'il avait déjà dégarnies en territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike parle des actes de provocation. Suivez un extrait de sa déclaration recueillie ici par la presse du gouvernorat.
Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyamahoro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. Depuis l'adresse au cours de laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réaffirmé le refus de tout dialogue direct, les terroristes du M23-RDF ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. De ce fait, les forces armées considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale de tirer toutes les conséquences irrelatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informe qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité.
Selon les sources civiles dans les Niragongo, c'est depuis mardi dernier que les rebelles du M23 ont redéployé leurs troupes jusque dans les environs de Kanyamaoro, en groupement de Bouvumba. Et du coup, la situation est encore tendue dans la zone. En bref, au moins un mort et 12 blessés. Bilan de l'explosion accidentelle d'une roquette hier jeudi au stade de l'unité de Goma, au Nord Kivu. Selon un communiqué de l'armée, l'incident a eu lieu à 16h locale, pendant qu'une équipe locale voulait s'entraîner au stade. Le communiqué signé par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike, précise que la roquette RPG-7 que détenait un soldat des FARDC à bord d'une jeep militaire au niveau du rond-point Instigo a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. Le projectile a atterri sur le terrain de football, rapporte des témoins. Exprimant sa compassion aux victimes, le gouverneur de la province du Nord Kivu appelle la population de Goma au calme. Processus électoral, je le disais au sommaire, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présenté officiellement jeudi son regroupement politique dénommé Agissons et Bâtissons AB. Ce regroupement politique est réuni plusieurs partis politiques, dont ceux des ministres du gouvernement comme Guy Luando, Christophe Lutundula, Modeste Moutinga, Muindo Zangi. Cette plateforme se donne comme première mission de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat. Des détails avec Billy Van Lutumba.
Le regroupement politique AB, Agissons et Bâtissons, justifie son choix sur Tshisekedi du fait des multiples actions engrangées pour humaniser la vie du simple Congolais. Maître Kabassé, le président du parti ARP de Guy Luando.
Nous pouvons citer l'ambitieux programme de la gratuité de l'enseignement de base, le programme de développement local 145 territoires, la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité.
Samalukonde, comme autorité première du regroupement, souligne ici les liens d'affinité et valeurs qu'incarnent les 10 partis politiques membres de l'AB.
La raison première, c'est une vision incarnée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, et rappeler que de cette vision est née une union sacrée de la nation, en vue de mener notre beau et grand pays vers une destinée meilleure et majestueuse. Mais surtout, son engagement de vouloir briguer un deuxième mandat. L'Union sacrée, en général, s'organise pour l'accompagner dans la matérialisation de cet objectif.
Signalons qu'au cours de la cérémonie de ce jeudi, il a été procédé aussi à l'installation de Danny Banza Maloba comme président du parti politique Avenir du Congo ACO, comme président en exercice de ce regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation.
Autre chose à présent, la vaste campagne d'octroi de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers de la RDC répond aux attentes du peuple congolais, précise le ministre des Hydrocarbures en séjour à Goma. Didier Boudimou, qui fait cette mise en point, répond à la pression des défenseurs locaux de l'environnement qui jusqu'à présent contestent ce projet du gouvernement congolais. Ces acteurs locaux, dont ceux qui ont manifesté le 18 septembre dernier à Goma, estime que cette campagne menace les écosystèmes de la région. Mais pour sa part, le ministre parle d'un besoin d'accroître l'économie des hydrocarbures dont les ressources sont jusqu'aujourd'hui exploitées à moins de 5% en RDC. Didier Boudimbou, dans ce propos recueilli par Bernard Adenyangui.
Je pense qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Nous savons tous que, personnellement, j'avais été interpellé au niveau du Parlement pour dire que comment se fait-il qu'en RDC, on n'exploite pas notre gaz méthane, mais juste au Rwanda, on sait exploiter. Comment se fait-il que nous avons toutes ces ressources en termes d'hydrocarbures, mais on n'exploite qu'à 4,5%. C'est par rapport à cette demande-là que le gouvernement a pris ses responsabilités, par la volonté du chef de l'État. Là, nous avons lancé des appels d'offres et ça se passe très bien. Nous venons d'octroyer 2 blocs gaziers au niveau du Lac Kivu, le bloc Idjui, et puis un deuxième bloc, et bientôt nous allons signer pour le troisième bloc. Nous sommes très travaillé par rapport au bloc pétrolier. J'ai signé le cahier de charge avant-hier et nous pensons déjà par rapport à la zone ouest, on pourra déjà octroyer ces blocs-là qui ont été mis en appel d'offres. Et il y a aussi une bonne chose qui est arrivée, c'est que nous avons pu signer par rapport à la ZIC, la zone d'intérêt commun avec l'Angola, où eux, ils ont commencé à exploiter, ça fait des années. Nous, on n'a jamais exploité. Au moment où nous parlons, les équipes du ministère des Hydrocarbures sont au niveau de l'Angola en train de discuter avec l'associé Chevron qui sera l'opérateur sur le bloc 14 de la ZIC. Donc je pense que nous nous sommes contraints de réaliser et de faire la volonté du peuple et la vision du chef de l'État.
Rappelons que le ministre des Hydrocarbures séjournait à Goma pour lancer la phase industrielle du projet de dégazage du golfe de Kabuno sous le lac Kivu.
Actualité internationale.
Le président sud-soudanais Salva Kiir est à Moscou pour une visite d'État de 2 jours. Au programme des discussions bilatérales, l'intensification des liens des coopérations sécuritaires entre le Soudan du Sud et la Russie. Djouba espère en outre recevoir le soutien de la Russie pour que l'embargo sur les armes soit levé prochainement par le Conseil de sécurité. Au Kenya, les frais du dialogue politique font polémique. Le dernier round de négociations entre les pouvoirs et l'opposition coûtera plus de 100 millions de shillings, soit environ 680 000 euros. Ces discussions ont démarré début août et doivent trouver une solution à la crise qui oppose le président William Ruto et Raila Odinga, candidat malheureux à la présidentielle de 2022.
L'invité
de ce journal est Jean-Baptiste Itipo, le directeur de la communication de la CENI. Il parle de la problématique de la délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs. Il réagit ainsi au sondage mené par l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences politiques à l'Université de Kinshasa et à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation sur cette opération. Jean-Baptiste Itipo s'entretient avec Grace Amzati.
Jean-Baptiste Itipo, bonjour.
Bonjour.
La CENI avait annoncé depuis le 2 août 2023 les débuts de l'opération de la production des duplicatas des cartes d'électeurs. Quelle évaluation faites-vous à ces jours de cette opération?
Merci pour la question. Effectivement, à la date du 2 août 2023, la CENI a procédé au lancement de l'opération de délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs aux électrices et aux électeurs ayant perdu leurs cartes, mais aussi aux personnes dont les cartes d'électeurs étaient devenues illisibles. Cette opération qui a démarré le 2 août se poursuit au niveau des antennes de la CENI et elle va se poursuivre même au-delà après les élections du 20 décembre 2023.
Il y a l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences politiques à l'Université de Kinshasa, qui a mené une enquête scientifique sur cette opération et qui dit avoir constaté que sur 10 000 personnes interrogées à Kinshasa sur cette opération, plus de 9 000 ont déclaré avoir perdu leur carte d'électeur, soit leur carte d'électeur, les écrits ne sont plus lisibles. Du coup, il y a un engouement dans les centres de livraison de ces duplicatas. Qu'en dites-vous?
Ce qui est vrai, c'est quoi? Les gens arrivent à perdre leur carte d'électeur. Il suffit de faire un tour dans des lieux publics, les restaurants, les hôtels, les aéroports, autres ports. Même au niveau des banques, il y a toujours des gens qui perdent leur carte d'électeur et qui ne reviennent pas à ces endroits pour les rechercher. La CENI, en son temps, avait lancé un communiqué pour demander notamment aux tenants de ces lieux publics de rassembler les cartes d'électeur qui ont été oubliées par leurs propriétaires, de les ramener à la CENI de manière à ce que, au regard des adresses qui sont reprises là-bas, la CENI pouvait aider, n'est-ce pas, à contacter les personnes concernées afin de leur remettre leur carte d'électeur. C'est vrai que la demande est forte, mais c'est aussi vrai que la période pour la délivrance des duplicatas va s'étendre pendant plus ou moins 3 ou 4 mois. La demande est forte et nous comprenons cela. Nous demandons aux uns et aux autres d'être patients.
Alors, parmi les propositions ou recommandations de l'Observatoire de la gouvernance, cette structure demande à la CENI de produire les duplicatas pour tous les électeurs parce que la structure estime qu'avec cette forte demande, il y a risque que certaines personnes se présentent les jours des élections avec des cartes d'électeurs illisibles et que la CENI complique. Qu'en dites-vous?
Non. Vous savez que d'abord la carte d'électeur, c'est l'unique document en République démocratique du Congo qui permet à chaque électrice ou à chaque électeur d'exprimer et d'exercer son droit de vote. Le problème c'est quoi? Il y en a même qui ont déjà obtenu des duplicatas et qui commencent déjà à les perdre, ce qui n'est pas bon. Il faudrait que chaque électeur ou chaque électrice conserve très bien sa carte d'électeur. Et ceux qui n'ont pas encore obtenu leur duplicata, qu'ils se rendent aux antennes de la CENI, qu'ils respectent l'ordre d'arrivée pour éviter toutes les pratiques que nous n'encourageons pas ici, les antivaleurs, afin d'obtenir leur duplicata. Donc nous sommes conscients de cela, que chacun de nous pour voter doit présenter sa carte d'électeur ou le duplicata de sa carte d'électeur.
Même si les écrits ne sont plus visibles ou lisibles, les Congolais vont voter avec cette carte. La CENI
non,
va accepter.
Je n'ai pas dit ça. La carte d'électeur doit avoir des écrits qui sont visibles pour identifier la personne qui détient la carte. Comme vous le savez, dans le bureau de vote, la première personne qui reçoit l'électeur, c'est l'assesseur suppléant qui doit se rendre compte si l'électeur est bel et bien inscrit dans le bureau de vote où il désire voter. Mais la deuxième personne qui le reçoit, l'assesseur numéro 1, doit vérifier l'identité de l'électeur. Et donc la carte d'électeur doit avoir les écrits de l'électeur. Voilà pourquoi la CENI a étalé pendant longtemps la période de délivrance des duplicata, mais aussi la délivrance des cartes d'électeur aux personnes dont les cartes sont devenues illisibles.
Un message à tous les Congolais par rapport à cette opération de la production des duplicata.
Que les personnes qui ont perdu leur carte d'électeur se rendent d'abord auprès de l'officier de police judiciaire pour obtenir le procès verbal de la perte des cartes d'électeur. Et sur base de ces procès, ils se rendent à l'antenne de la CENI. Ils rencontrent les chefs d'antenne de la CENI qui leur fait remplir, n'est-ce pas, un formulaire de demande de duplicata. Et le duplicata leur sera délivré. Mais qu'ils le fassent en ordre. Les personnes dont les cartes d'électeur sont devenues illisibles, les écrits ou soit la photo, ces personnes-là doivent se rendre directement à l'antenne de la CENI, ils rencontrent les chefs d'antenne de la CENI qui leur fait remplir un formulaire également. Et puis, on imprime la carte et qu'ils conservent alors la carte qu'ils auront pour voter avec cette carte-là le jour des scrutins.
Je vous remercie.
Merci beaucoup à la Radio Okapi.
Jean-Baptiste Itipo, notre invité et directeur de la communication de la CENI, s'entretenait avec grâce Amzati Masanzi. Fin de ce journal qui a été supervisé par Noëlla Luzitu Kabambi. Alain Goy, la mise en onde. Et à vous, infiniment merci de l'avoir écouté.